Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. » Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien ou mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ? » Celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ? C'est le serpent qui m'a trompée, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque toi, tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre. Tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. » Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras des produits du sol. » Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci. Car toi, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme nomma sa femme Ève, vie. Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie.
Oh, quel texte, n'est-ce pas ? Un peu long, mais avec de la densité, de la profondeur. Bon, il y a 15 jours, on avait parlé effectivement de la création, et dans les deux premiers chapitres de la Genèse, et on avait titrer cette prédication « À la rencontre de l'auteur ». L'auteur, non pas de la Genèse, mais l'auteur de cette création, Dieu lui-même. Et ce qui était ressorti de ces deux premiers chapitres, c'est que tout était très bon. Tout de bon, comme disent nos amis suisses. Vraiment, vraiment très bon. Vraiment, tout était très bon. Et puis, patatras, on vient de le lire, c'est plus bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden ? J'aime bien l'image, enfin j'aime bien, elle est intéressante, hein, Adam, là, la peinture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis il se tourne vers Ève, ben, c'est la faute à Ève. Alors, ce texte de Genèse 3 est amené à beaucoup d'interprétations, mais on a parlé du péché originel. Vous avez déjà entendu cette expression, le péché originel. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais ça fait fort, ça fait dangereux, hein, le péché originel. Et quand on regarde quand on voit le regard d'Angelina Jolie qu'elle nous jette là, on se dit oui, le péché originel. Enfin, il va se passer quelque chose, et ça nous fait penser que le péché originel aurait quelque chose à voir avec ce que vous pensez. On parle de, par exemple, croquer la pomme. Croquer la pomme. Et du serpent qui séduit. Mais quelque chose s'est perdu dans la traduction. Et pour citer un autre film, Lost in Translation. Et il me semble qu'il faut qu'on approfondisse un petit peu pour y voir plus clair. Et dans un premier temps, essayer de définir de quoi il s'agit. Du péché originel. De quelle faute s'agit-il ? Et dans un deuxième temps, nous essaierons de voir quelles sont les conséquences de cette faute. Et dans un troisième, nous essaierons de voir si dans son texte si sombre, il n'y aurait pas quand même quelques lueurs d'espoir. Et dans un quatrième temps, nous essaierons de voir quel rapport ça a avec nous aujourd'hui, ce qui s'est passé dans ce jardin. Alors, de quelle faute s'agit-il ? Vous l'avez entendu, tout tourne autour de cet arbre, de ce fameux arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, je sais que vous voulez me poser la question, s'agissait-il vraiment d'un pommier ? Ben non, enfin, on ne sait pas, peut-être, oui, mais rien dans le texte nous dit qu'il s'agit d'un pommier. En fait, cela vient d'un jeu de mots en latin, et la Bible, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, donc le latin... Ça a été la langue à une certaine époque. Et donc, malus, ça veut dire pomme, et malum, ou malum, ça veut dire pomme, et malus, ça veut dire mal. Et donc, on a fait un amalgame entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a mené à l'entrée du mal, et le pommier. Mais ce n'est pas un pommier, c'est juste un jeu de mots en latin, ça n'a rien à voir. Mais ça pourrait être un figuier, mais ce n'est pas important. Ce qu'il est, c'est de savoir que selon la Bible, connaître, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, connaître, c'est décider. Et donc cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas seulement avoir conscience de ce qui est bien ou mal, c'est décider de ce qui est bien ou mal, et c'est décider seul. Décider pour soi-même, être sa propre référence, d'être autonome, c'est-à-dire en grec, comme a été écrit le Nouveau Testament, autonomos, être sa propre loi. Dans la connaissance du bien et du mal, il y a quelque chose de plus important, de plus dangereux peut-être que de simplement discerner entre le bien et le mal. Et Calvin, vous savez, le réformateur du XVIe siècle, protestant, l'a bien compris en disant, et c'est succulent, c'est le langage du XVIe siècle, « Non pas, si Dieu a défendu de manger de cet arbre, non pas parce que Dieu voulut qu'il, l'homme, vaqua, ça et là, sans jugement ou sans discernement par rapport à ce qui est bien ou mal, à la façon des bêtes, mais afin qu'il ne désirât point plus qu'il n'était convenable et qu'il ne se constituât soi-même juge et arbitre du bien et du mal en secouant le joug de Dieu et en se fiant à son propre sens. » C'est bien dit, n'est-ce pas? Avec en plus de beaux subjonctifs imparfaits à la clé, qu'il vaqua. Et donc, dans ce jardin, vouloir connaître le bien et le mal, ça revient à dire que l'homme veut, comme dit Calvin, secouer le joug de Dieu, c'est-à-dire se passer de Dieu et décider par lui-même ce qui lui convient. C'est dire en quelque sorte, c'est moi qui décide. C'est être, comme je l'ai dit, autonome, sa propre loi. Et c'est en fait refuser son statut de créature, sa place dans les créations, avec Dieu, son Père, au sommet de la création, pas au sommet de la création, comme créateur. C'est vouloir devenir Dieu à la place de Dieu. C'est vouloir, comme is no good, vouloir être calife à la place du calife. Ça, c'est le péché originel. Et Angelina Jolie n'a rien à voir là-dedans. Enfin, peut-être. Mais le diable le dit plus tard, et il dit bien de quoi il s'agit, vous serez comme des dieux. C'est là que se trouve la tentation. Et quand on comprend bien la nature du péché en question, on comprend mieux alors l'interdiction. Et cette interdiction n'est pas une tentation, parce que souvent on se dit, ouais, mais s'il n'avait pas mis cet arbre, il n'y aurait pas eu de tentation et donc il n'y aurait pas eu de mal. Mais elle est en fait une mesure de grâce, de protection, cette interdiction, pour que l'homme puisse rester dans l'alliance, l'amour avec Dieu, comme un père et une mère restent avec ses enfants. Il y a Bonhoeffer, ce théologien allemand qui est mort en résistance, qui a été condamné et exécuté par les nazis, et qui le dit bien, l'interdit n'implique aucune tentation. L'interdiction lui montre à l'homme sa limite, et la limite est grâce, car elle fonde l'être créaturel. C'est une grâce de Dieu d'avoir des limites, de ne pas vouloir être Dieu à la place de Dieu. Il nous protège par cette interdiction. Nous sommes des créatures qui dépendent de Dieu et c'est dans cette dépendance que nous retrouvons vraiment. C'est dans cette relation avec Dieu que nous sommes vraiment hommes et femmes dans leur plénitude, pleinement humains, pleinement hommes, pleinement femmes, dans cette relation avec ce Dieu qui nous donne la vie. Et vouloir se débarrasser de Dieu est une folie. Et dans l'histoire de notre monde, la folie a parfois saisi les hommes éclairés. Par exemple, au XVIIe, au siècle des Lumières, on a abondamment repris cette phrase de Protagoras, « L'homme est le centre et la mesure de toute chose. » L'homme est le centre et la mesure, la loi de toute chose, avec Manpower, la publicité, enfin, Léonard de Vinci, repris par Manpower. Et là, il y a toujours en filigrane, et aujourd'hui, dans notre société et nos vies personnelles, il y a toujours cette tentation que l'homme soit le centre de toute chose. Dans l'histoire de nos vies aussi, cette folie de prétendre vivre sans Dieu nous saisit parfois, me saisit parfois, où je me dis que c'est moi qui va décider ce qui est bon pour moi. J'ai quand même un peu d'expérience avec mes 56 ans et demi. Et parfois, je rêve d'être dans mon petit bateau, dans mon petit zodiaque, seul maître à bord. Même pas après Dieu, seul maître à bord. Quelle folie! Quelle folie sur nos frêles esquifs de vouloir être maître à bord. Oui, je me dis que le problème du péché originel perdure. Et le diable va jouer sur ce ressort-là. Cette folie de l'homme, cette folie qu'a l'homme de vouloir être Dieu à la place de Dieu, mais aussi il va jouer sur le désir et la convoitise. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Et oui, le mal présente toujours un certain intérêt. Parce que le mal est perversion du bien, donc il y a toujours un petit peu de bien derrière. Et la convoitise joue aussi son rôle en même temps que l'orgueil dans le péché, c'est qui nous montre que le péché est une affaire éminemment complexe. qui joue à plusieurs niveaux, qui fait fonctionner plusieurs leviers. Quelqu'un disait que le péché est un acte humain et aucun acte humain n'est absolument simple, et le péché encore moins que les autres, que tout autre. Et le premier péché originel, à la fois convoitise, orgueil, est en fait tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il est ramifié, il est tentaculaire, il agit comme une pieuvre. Il y a saint Augustin, vous savez, ce père de l'Église du IVe siècle, qui disait quelque chose de très bien sur le péché. « Rien n'est plus évident à désigner, ça c'est mal, mais rien n'est plus obscur à comprendre. Comment ça fonctionne ? Quel ressort ça fait fonctionner ? Alors, rien n'est plus facile à désigner que le péché et aussi ses conséquences. Les conséquences de la faute, eh bien, on le voit dans le récit, et les conséquences viennent très rapidement. L'homme et la femme ont peur, ils se cachent dans le jardin, ils s'accusent mutuellement, ils prennent leur distance vis-à-vis de Dieu et l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a un sentiment de honte, de vulnérabilité, de solitude, de division, de culpabilité. Et quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ces conséquences sont toutes liées au centre de la faute, c'est-à-dire à ce désir d'être comme des dieux, d'être comme Dieu. Ils ont voulu être comme des dieux, maintenant il faut qu'ils assument. Et ils n'arrivent pas à assumer. Ils n'assument pas cette prétention à vouloir être Dieu. Ils n'ont pas les ressources pour le faire, ils n'ont pas les capacités pour le faire. Et ils vont découvrir la disproportion entre leurs objectifs et leurs capacités en tant qu'être humain. Ils vont se rendre compte combien ils sont vulnérables, et donc ils vont user de dissimulation, ils vont se cacher par rapport à Dieu et l'un par rapport à l'autre, être en fait, somme toute et en définitive, être des petits dieux, c'est pas si terrible que ça. Il y a Luther, le deuxième réformateur du XVIe siècle, qui disait « Nous étions comme des petits dieux tristes ». C'est triste, des petits dieux. De vouloir être Dieu, mais s'apercevoir qu'on ne peut pas l'être. Alors, on ne peut pas détailler toutes les conséquences du péché, mais on peut parler de deux niveaux. Celui de la relation avec Dieu. Quelque chose s'est rompu avec Dieu, c'est indéniable. C'est plus comme avant avec Dieu. Il y a une rupture, comme pour les fiançailles, ou une cassure. À mon époque, on dit « ouais, j'ai cassé ». Avec ma petite amie. Mais là, il y a une rupture, une cassure. Donc, il y a rupture, cassure, et donc l'homme et la femme se cachent dans le jardin et cherchent à dissimuler et à se dissimuler. Et Dieu les cherche parce qu'il veut restaurer cette relation de confiance, parce que Dieu les aime, tout simplement, cette relation d'alliance. Et l'homme répond, j'ai eu peur et je me suis caché. Et donc, il y a une sorte de culpabilité diffuse par rapport à ce Créateur. Et on pourrait parler d'un mal-être que l'homme qui veut être Dieu ressent au plus profond de lui, l'impression qu'en voulant être Dieu, il se coupe de lui-même, il se coupe de sa véritable humanité qui est de vivre en relation avec le Dieu créateur et de ce qu'il est vraiment, une créature aimée de Dieu qui est faite pour vivre avec cette relation avec lui, dans une relation avec lui, une relation de vie. Mais il n'a pas voulu. Et l'homme s'en va et se cache. J'ai trouvé cette expression, la mort dans l'âme. L'homme s'en va, la mort dans l'âme. L'âme, on va dire le lieu non localisé de cette relation vivante avec Dieu, spirituelle, qui donne le bonheur de vivre vraiment, et bien il s'en va, la mort dans l'âme, parce que ce côté-là de sa personne, de sa personnalité, se trouve mort. La mort spirituelle, la séparation éternelle avec celui qui peut combler notre âme. Il s'en va, la mort dans l'âme, séparé de Dieu. Et puis, dans la relation avec ce qui nous entoure. Parce que, voyez-vous, quand on est un petit Dieu, l'autre, qui le veut aussi, se trouve être un rival. On ne peut pas être tous Dieu en même temps. Donc l'autre, dans cette recherche que j'ai d'être Dieu, va devenir un rival, puisqu'il recherche lui aussi d'être son propre Dieu, et peut-être mon Dieu par la même occasion. Un Dieu rival, et donc la scène du monde va être le théâtre d'une guerre impitoyable pour le trône de Dieu, comme dans Le Trône de Fer. Cette série bien connue, on se bat pour le trône de fer, de Westeros à je ne sais plus où. Et la conséquence du péché, c'est que on est tous rivaux pour devenir Dieu à la place de Dieu. L'enfant, et puis, par exemple, la sexualité, création de Dieu, va être envahie par le mal, et il va y avoir, et vous l'avez lu, la domination, qui est une conséquence du péché. Ben oui, domination d'un Dieu d'un petit Dieu qui veut être Dieu à la place de Dieu, et puis qui veut dominer sur les autres. La honte, l'égoïsme. Vous avez vu l'enfantement. La bénédiction de la procréation demeure, mais s'y mêle l'amertume. Le cadeau d'un bébé devient fardeau. Il y a bien des parents qui pourraient dire ça aujourd'hui. Mais le cadeau devient fardeau. Le travail persiste, mais tout sera fait à la sueur du front dans des relations professionnelles compliquées avec l'exploitation, le harcèlement, etc. La nature, Paul en a parlé tout à l'heure, est toujours là, mais l'homme qui se prend pour Dieu va utiliser sa puissance pour exploiter cette nature et pour la détruire, au lieu d'en être un gérant responsable. Tout demeure, mais tout est changé, parce que l'homme a voulu être Dieu à la place de Dieu. Le grand dérèglement du péché affecte tout le bien que Dieu avait produit. Alors ce tableau est bien sombre, et on peut se demander s'il reste de l'espoir dans tout cela. Eh bien oui, et Paul en a déjà parlé également, mais s'il n'y avait plus d'espoir, nous ne serions pas ici pour en parler. Et ce qu'il y a de magnifique quand on s'attarde au texte, c'est de voir que dans le récit lui-même de Genèse 3, alors que tout est sombre, hein, tout est désobéissance, tout le monde se cache l'un de l'autre, tout le monde s'accuse l'un l'autre, c'est assez moche, on décèle dans si même quelques lueurs d'espoir, quelques amorces d'une grâce qui va, à partir de là, se mettre en route, et qui était déjà là d'ailleurs. Mais voilà les signes de la grâce. Alors le premier signe de la grâce est un peu surprenant et déroutant. Elle se trouve au verset 22, pardon, et elle se trouve dans le fait que Dieu interdit, voilà que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour le choix entre le bien et le mal, maintenant il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir ainsi du fruit de l'arbre de la vie et qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Et on a l'impression que c'est une punition, mais en fait c'est une protection. C'est une protection contre eux-mêmes, enfin pour les protéger d'eux-mêmes, l'homme et la femme. Je m'explique. Dieu semble constater que l'homme et la femme sont devenus en quelque sorte comme des dieux, mais en quelque sorte seulement. Ils ne sont pas vraiment des dieux, ou ce sont, comme le disait Luther, des petits dieux tristes qui n'ont pas les moyens de leurs prétentions. Et la parole de Dieu qui leur interdit l'arbre de vie est en fait très douce, car il leur dit « Je continue à être votre Dieu et je vous empêche de prendre de l'arbre de vie, c'est parce que vous ne pouvez pas vivre éternellement dans cet état-là, dans cet état de révolté, dans cet état de petit Dieu triste et prétentieux. » La vie éternelle serait incompatible avec cette situation et il faudra passer par la mort, les amis, pour pouvoir passer par une recréation, pour pouvoir passer par une résurrection. Ouf ! Et là, on va peut-être un peu trop loin, non, pas trop loin, un peu loin. Mais cette interdiction de manger de l'arbre de vie est en fait une mesure de grâce. Qui pointe vers la recréation en Jésus-Christ. Et puis, vous l'avez aussi vu, Dieu les revêt de vêtements. Et ça, c'est une mesure de grâce aussi, de douceur, de gentillesse. Dieu veut montrer qu'il reste le Dieu des pécheurs, Et cette démarche de les revêtir de vêtements montre comment Dieu agit face au péché. Il ne revient pas simplement en arrière. Il ne leur dit pas, bah, écoutez, vous avez mis des feuilles, mais on va revenir à l'état paradisiaque tout nu. Non, il couvre le péché. Et vous savez que pardonner et couvrir sont des synonymes, pratiquement synonymes. Il couvre leur péché et leur nudité. Et on peut penser aussi au Nouveau Testament, à cette image du vêtement que Dieu pose sur nous en Jésus-Christ. Il y a Paul, l'apôtre Paul, qui parle de revêtir Christ, qui est le nouvel Adam, qui lui a obéi jusqu'au bout, et qui nous revêt de son manteau, du manteau de la justice, qui nous couvre de son manteau. Ce qui est beau dans l'histoire du salut, c'est que Dieu, malgré le péché originel, est capable de faire du neuf, de nous revêtir d'un habit nouveau. C'est ce qui est dit dans la Bible. Un habit qui nous va si bien et dans lequel nous retrouvons l'image que Dieu avait mise en nous et qui avait été détériorée par le péché, mais on retrouve avec ce vêtement nouveau du Christ, cette image de Dieu en nous. Et quand la Bible nous dit que tout est en Christ, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment vrai. C'est vraiment cohérent, c'est le plan du salut de la grâce de Dieu. Et puis, comme lueur d'espoir, il y a aussi cette promesse faite à la femme. Qu'Adam va appeler pour la première fois Ève, et qui vient de cette racine « vivre ». C'est pour ça que dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il y avait entre parenthèses « vie ». Parce qu'elle est la mère de tous les vivants, de tout vivant. Et pour bien le rendre en français, on aurait pu traduire par Viviane, au lieu d'Ève. Viviane. Oh, Sarah, elle aime moins, là. Je la vois. Alors. Vous avez lu le Rio, d'ailleurs. Il y a un article à ce sujet, très intéressant. Mais Viviane, bon, ça ferait un peu bizarre, mais parce qu'il y a le mot « vie » dedans. Adam appelle sa femme « vie ». C'est un peu audacieux quand même d'appeler sa femme vie, alors qu'on vient d'être exclu du jardin, d'avoir mangé du fruit défendu, d'être interdit de manger du fruit de la vie, appeler sa femme vie. Mais en fait, Adam a bien compris ce que Dieu lui disait. Et Dieu veut apporter la vie malgré la mort, malgré les souffrances. Dieu promet la vie et la persévérance de la vie. Et à Ève, il y a une promesse supplémentaire qui va être faite. Et quelle promesse ? La promesse d'une descendance qui va faire la guerre au diable et qui aura la victoire décisive, la victoire capitale, de caput, la tête. Tu vas lui écraser la tête et le diable et la puissance de la mort sera caput, elle sera perdue. Et la promesse commence par ces mots, et c'est intéressant, « je mettrai inimitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme », et c'est Dieu qui parle. Et il ne s'agit pas simplement d'un constat, il y aura inimitié, mais il y a vraiment un engagement de la part de Dieu, et c'est une belle mesure de grâce. Dieu s'engage du côté de l'homme et la femme pour combattre le diable et les conséquences du péché dans nos vies. Il s'engage lui-même dans la bataille et qu'il a un plan pour la victoire. Oui, Dieu s'engage dans la descendance de la femme avec un nouveau représentant de l'humanité, un nouvel Adam, pour gagner la bataille décisive contre le mal. Mais ça ne se fera pas sans mal. Et quand il est dit, oui, le mal va mordre le talon, de la descendance de la femme, le mal va mordre par la mort de Jésus. Le mal va faire son œuvre, mais à travers cette mort, Jésus obtiendra la victoire. Par sa mort, nous dit l'Épître aux Hébreux, il a réduit à l'impuissance celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il y a tout l'Évangile dans cette promesse de Dieu à Ève. C'est pour ça qu'on a appelé ce chapitre 3 et ce verset 20, la promesse, le proto-évangile, le premier évangile. Oui, dans ce tableau si sombre, il y a des lueurs d'espoir, il y a des amorces de la grâce de Dieu. Alors quel rapport avec nous pour terminer? Quel est le lien entre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et ma situation aujourd'hui? Et on pourrait tous être à la place de ce Adam qui s'interroge, quel rapport avec moi? Et derrière cette question aussi se trouve cette autre question, peut-être que vous vous posez, pourquoi dois-je subir les conséquences du péché alors que je n'y étais pas dans ce jardin? Voilà une question qu'elle est bonne et que vous vous posez certainement, enfin j'espère, enfin moi je me la pose. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, pourquoi j'ai à subir ces conséquences du péché? D'abord parce que Adam et Ève sont nos représentants. Quelque part, ce sont nos représentants, les chefs de l'humanité de l'époque. Et à cause de cela, il y a comme un lien de solidarité qui s'établit de génération en génération. Nous sommes, comme eux, des hommes. Ils sont hommes et femmes et ils ont péché. Nous sommes hommes et femmes et nous péchons. Il y a aussi le fait que nous reproduisons ce péché dans nos vies, ce schéma de péché dans nos vies. Peut-être pas de la même manière, mais en tout cas de manière similaire. Nous cherchons, d'une manière ou d'une autre, à nous affranchir de Dieu, à se faire notre propre loi, à nous faire notre propre loi, et à nous cacher de lui, avec toutes les conséquences aussi de cet éloignement de Dieu, avec toute la liste aussi des péchés que nous pouvons commettre, égoïsme, égocentrisme, mensonge, hypocrisie, solidarité et imitation. Voilà pourquoi le péché originel nous concerne. Et Henri Blocher le dit bien, c'était mon professeur à la faculté de théologie, qui a été doyen aussi, qui a écrit plusieurs livres. C'est à cause du péché d'Adam que nous sommes punis pour les nôtres. C'est à cause du péché d'Adam que nous sommes punis pour les nôtres. Et il fait le... Il fait le lien. Et Henri Blocher parle de punition, mais on sait aussi que c'est Christ qui prend sur lui la punition du péché d'Adam. Alors, une question demeure. Quelle attitude avoir par rapport au péché? Je vous propose très rapidement trois attitudes, peut-être à discuter, à réfléchir. Premièrement, savoir reconnaître son péché. On est dans une société qui a fait d'énormes progrès dans la stratégie d'évitement du mal et du mal personnel. Responsable mais pas coupable, etc., etc. On cache, on dissimule, on excuse, on justifie, on accuse les autres. Et le Seigneur nous demande, comme Nathan l'a fait pour David, de confesser notre faute, c'est-à-dire de dire la même chose que Dieu sur notre état d'homme et de femme pécheurs. Comme le dit David dans le psaume 32, « Je n'ai point caché ma faute. Je n'ai même pas cherché à le faire. Je n'ai pas caché ma faute. » Et le dire, comme il le dit plus tard, « Je reconnais devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. » Il s'agit de prendre conscience que mon péché relève d'une révolte contre Dieu, d'une volonté d'en faire à ma guise, d'être mon propre petit Dieu triste. Prendre conscience que dissimuler, que de ne pas le reconnaître, va vers une impasse, nous conduit vers une impasse, et se décider à prendre une nouvelle direction, justement, en commençant par le reconnaître. Et puis, il s'agit aussi de le porter devant le Dieu de la grâce, ce péché, avec cette foi que Dieu couvre en Christ tous nos péchés et que cette grâce se renouvelle au fur et à mesure de notre marche avec Dieu. J'aime ce verset de 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal que nous aurions pu commettre ou que nous commettons. Il n'y a pas de conditionnel. Eh bien, ce Dieu est fidèle dans son pardon. Et heureusement qu'il est fidèle dans son pardon, n'est-ce pas? Sans cesse revenir à la grâce de Dieu. Et on aura l'occasion de le faire tout à l'heure dans le moment de Sainte-Cène. Et puis, garder espoir, comme dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, il y a toujours, même au milieu du sordide, des lueurs d'espoir, des signes de la grâce. Malgré l'infiltration du mal et l'actualité qui nous le rappelle à peu près chaque jour, Il y a des lueurs d'espoir malgré tout. Il s'agit de ne pas désespérer ni de soi, ni de l'autre, ni du monde. Parce que, Romains 5, 20, parce que là où le péché a abondé, vous savez quoi ? La grâce a surabondé. La grâce qui était déjà décelable en Genèse 3, elle surabonde aujourd'hui en Christ. Et nous sommes tous autant que nous sommes, hommes et femmes pécheurs, hommes pécheurs, femmes pécheresses, des témoins de cette surabondance de la grâce aujourd'hui dans ce monde qui pourrait nous désespérer. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que nous puissions être des acteurs, des vecteurs de cette grâce de Dieu aujourd'hui, par son Esprit qui nous donne toute l'énergie qu'il nous faut, par sa grâce aussi, et pour sa gloire. Amen.